Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Bonjour à tous, bienvenue dans Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC et sur RMC Story, le canal 23 de la TNT. Estelle n'est pas là aujourd'hui, mais elle sera de retour avec nous dès lundi prochain. Autour de moi aujourd'hui, Thibaut Texer, pour tout savoir et tout comprendre. Salut Thibaut.
Bonjour Rémi, bonjour à tous.
Perico Legas, journaliste à Marianne. Salut Perico.
On va avoir de la neige et un peu d'atomes, donc c'est pas mal.
Formidable. Benjamin Muller, journaliste. Salut
et
Benjamin.
Et un grand match de foot demain. Et un grand match surtout.
Et on croise les doigts parce que pour les Anglais, c'est jamais facile.
Bien sûr.
Bonjour. En rugby ou en foot. Mathilde Himmer, militante écologiste. Salut Mathilde.
Salut Rémi. Salut à tous.
Ça a été, ça va.
T'es bien arrivé. J'ai trouvé un train.
Bon, tout très bien. Allez, dans un instant, des associations de malades qui réclament le retour du port du masque obligatoire face à la reprise du Covid. Est-ce que vous y êtes prêts? Vous nous appelez, vous connaissez le principe, au 32-16 à 12h30. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, table sur une baisse de la délinquance en 2022. Est-ce que vous y croyez? À 13h, plus d'un prof sur deux désormais évite désormais de parler religion à l'école, justement pour éviter les problèmes. Est-ce que la laïcité est en danger dans notre pays? À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC avec le zapping. À 14h, c'est un chiffre communiqué ces dernières heures par EDF. La consommation électrique a diminué de 10% en France le mois dernier. Finalement, est-ce que ce ne serait pas une bonne nouvelle pour la planète? Et puis à 14h40, les immanquables de Thibaut Texer. Et surtout, Thibaut, on n'oublie pas, on est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine, en tout cas pour nous. Et on continue de jouer.
Eh oui, vous envoyez coffre tout de suite par SMS au 732-16, coffre au 732-16. Si vous êtes sélectionné, vous pouvez repartir avec le pack Nintendo Switch Mario Kart 8 et deux volants. Mais si vous êtes joueur, vous pouvez remettre ce cadeau en jeu et ouvrir le coffre. À gagner une PlayStation 5 ou une PlayStation Classic Mini et peut-être même un chèque allant jusqu'à 2500 €. Vous vous inscrivez par SMS en envoyant coffre au 732-16. 3 SMS pour jouer, 75 centimes par SMS.
RMC Estelle Midi.
C'est l'appel du jour, un appel lancé par 12 associations de malades pour le retour de l'obligation du port du masque dans les lieux clos, dans les transports, dans les magasins, dans les pharmacies. Dans une tribune publiée dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France, aujourd'hui, ces associations s'adressent au gouvernement. Elles parlent d'une situation désormais intenable face à la multiplication des cas de Covid. Alors Thibaut, justement, où en est-on exactement de cette épidémie?
10%, Rémi, c'est la hausse du nombre de cas de contamination sur la semaine qui vient de s'écouler. Mercredi, on comptait plus de 75 000 nouveaux cas avec un taux d'incidence au-delà des 580 cas pour 100 000 habitants. Ça va même au-delà des 800 dans certaines régions, la PACA et l'Occitanie en tête. Nous sommes dans une remontée de la contamination liée à un nouveau variant, pas plus dangereux que le BA5, un variant d'Omicron, expliquait ce matin sur RMC le ministre de la Santé, François Braun, qui s'attend à une hausse du nombre de morts dans les semaines à venir. Face à la reprise épidémique et le début de la 9e vague, les messages à la vaccination se multiplient. À l'approche des fêtes, une 4e dose désormais accessible à tous. 20% des plus de 80 ans et 40% des plus de 60 ans sont à jour seulement aujourd'hui de leur vaccin contre le Covid. Insuffisant pour le ministre de la Santé. Ajoutez à cela la propagation des épidémies de bronchiolite et de grippe, d'où l'inquiétude aussi des soignants, d'autant que le nombre d'hospitalisations explose pour le coronavirus, plus de 17% sur les 7 derniers jours. Donnant crédit à ces associations, le gouvernement a changé de ton, appelant à la responsabilité individuelle et collective. Fin novembre, Elisabeth Borne lançait un appel solennel devant l'Assemblée nationale, invitant les Français à remettre le masque dans les transports et au contact des plus fragiles. Un message à l'efficacité limitée, déplorent les associations de malades qui réclament désormais le retour de l'obligation du masque dans les espaces de grande promiscuité.
Des associations de malades qui réclament le retour du port du masque obligatoire face à la reprise du Covid, est-ce que vous y êtes prêts? Nous vous posons la question, vous réagissez sur les réseaux sociaux, notamment sur Direct Studio, et Thibaut lira vos messages et vous nous appelez au 32-16. Perico, est-ce que les Français ne sont pas suffisamment responsables? Est-ce qu'on est obligé de repasser par l'obligation?
Malheureusement, je pense que cette mesure, visiblement, on tâtonne. C'était parti, c'était pas parti. La létalité est pas très violente en ce moment, mais enfin, il y a quand même des gens qui meurent. Si c'est pour retrouver un épisode, j'allais dire douloureux, il vaut mieux. Je veux dire, c'est le moindre mal. C'est pas joyeux de porter le masque. Mais si c'est que ça, ça peut encore aller si on a la certitude qu'on va endiguer, enrayer, ou en tout cas qu'on va se donner le temps de savoir ce qui se passe. Moi, je suis toujours étonné qu'on ait arrêté les tests. Il faut continuer à tester pour savoir où on en est exactement, savoir s'il faut revacciner ou pas.
Si c'est au-delà de ça, c'est ce qu'a expliqué Thibault. Hein. Il y a le Covid, mais il y a aussi la grippe saisonnière. Il y a aussi une épidémie jamais vue depuis 10 ans chez les enfants de bronchiolite. Donc, c'est ce que disent les associations et les médecins d'ailleurs en général. Ce sont des, c'est un geste de bon sens que de mettre un masque, mais toute la question est là. C'est ce que disent les associations. Hein. Thibault vient d'en parler. C'est que c'est plus tenable. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On n'est pas assez responsable en France, non. Et donc obligeons.
Et pas seulement le masque, et se nettoyer les mains avec le gel.
Enfin, ça, on va mettre derrière le robinet de
j'ai envie de dire, et puis je vais l'assumer comme tel, on est rentré dans une ère à 7 milliards d'habitants, et ben l'être humain va porter un masque sur Terre parce qu'on est. C'est comme ça. Voilà, et si ça permet d'éviter un chaos plus fort, c'est pas cher payé. Je sais bien que c'est pas agréable, mais c'est pas cher payé. Quand j'entends ah non, le masque, non. Non, on rigole pas avec ça.
Et obligation, on est bien d'accord, c'est retour des amendes aussi.
Et là, je suis déçu que le gouvernement dise pas, écoutez, je vous oblige, tant mieux si on l'arrête dans 3 mois ou dans 2 mois. Là, on le réimpose parce qu'on est dans une période de flou, on peut pas jouer avec la santé, pas seulement des individus, de la collectivité, vous rendez compte, un reconfinement ou dans la situation où on est, ça serait la fin des haricots, c'est le cas de le dire.
Mathilde Himmer, tu as une question Mathilde, est-ce que tu reportes le masque? Tu as pris le train ce matin?
J'ai pris le train hier, j'ai mis le masque et le métro ce matin et je mets le masque. Mais moi je trouve que l'obligation, on n'aurait pas dû l'enlever dans les transports. On aurait peut-être évité la situation là dans laquelle on est où on se pose la question potentiellement de faire pire.
Tout à fait.
Et en Allemagne c'est le cas par exemple, où ils ont gardé dans les transports. Et par contre c'est hors de question pour moi, au boulot, moi je travaille sur des chantiers, de mettre le masque.
Bref, et donc j'ai pas envie qu'on aille... Les associations réclament dans les transports, dans les magasins, dans les pharmacies.
Sauf que toi, dans la menuiserie, tu peux avoir un masque professionnel à cause de la poussière.
Oui, qu'on est censé porter sur certains travaux.
Bien sûr.
Non, mais ce qui est important de comprendre, selon moi, c'est qu'on a voulu faire croire que tout était derrière nous. C'est pas le cas. Il y a un enjeu, à mon sens. En effet, je suis assez d'accord avec Perico, que le masque est le moindre mal. À nouveau, uniquement dans les transports. Et moi, je pense que la responsabilité des gens, elle peut aussi augmenter en fonction du nombre de cas. Et moi, si je le porte, c'est pas parce qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont fait des appels, parce qu'à force de mensonges et de tout ça, je les écoute plus tellement. En revanche, c'est parce que j'ai des proches qui sont infirmiers, qui sont médecins, et alors, que j'ai pas envie de leur rajouter ça dessus, quoi.
Toi, tu le fais. Mais encore une fois, c'est ce que disent les associations. C'est-à-dire qu'on va pas se cacher derrière notre petite voix. Enfin, il y a les trois quarts. Moi, je prends aussi le train, les transports, comme beaucoup de ceux qui nous écoutent. Les trois quarts, voire plus. 90% des personnes que je vois dans le métro, il n'y a pas de masque.
Écoute,
donc on a beau le dire, le répéter, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on dit attention dans les transports notamment, remettez le masque dans les pharmacies. C'est quand même, tu rentres dans une pharmacie, tu mets même pas ton masque, alors que tu sais que potentiellement, forcément, par définition, les gens qui vont dans la pharmacie, c'est parce qu'ils
même
sont malades.
Les pharmaciens ne l'ont pas forcément.
Absolument. Et donc, est-ce qu'on est malheureusement, faut le déplorer, mais on va être obligé de passer par l'obligation. Et encore une fois, je rappelle qu'obligation, ça veut dire amende pour ceux qui le mettront pas.
Je vois quand même, moi, de prendre le train tous les 15 jours là, pour venir dans cette émission, je vois quand même qu'il y a de plus en plus de gens qui, dans le train, le portent. En revanche, dans le métro.
C'est quoi, 80%
dans le métro, le je suis hyper choqué. Ah, oui. Personne ne le porte.
Oui, 10%, allez.
C'est alors que c'est à Paris que tu chopes le plus le Covid, parce que c'est là où t'as
ou
le plus
à Lyon, ou à Lille, dans les transports,
Moi, je trouve ça assez hallucinant. Donc, oui, s'il n'y a pas de responsabilisation des gens, on va être obligé d'y arriver.
Benjamin?
Bon, moi, j'ai mon masque et je suis prêt à le dégainer. Si on en a un petit tous, vous êtes en train de découvrir que le français est comme ça? C'est-à-dire que moi, ça m'étonne pas du tout. J'ai pris le métro hier matin à l'heure de pointe, 8h30, la ligne 9 pour les Parisiens qui connaissent.
Bombé.
Noir de monde, collé les uns aux autres, crade, machin, etc. Effectivement, zéro masque. Et je dois reconnaître que j'avais pas le mien, je l'avais oublié, j'étais dégoûté. Je me suis dit, en fait, je vais le choper, etc. Ce qui est marrant, c'est de voir avec les Français. Perico, tu disais 10%, à mon avis, c'est ça. Oui. Et si tu regardes le Japon, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'au mois d'octobre
c'est
dernier.
C'est culturel au Japon. Ça a toujours été.
C'est intéressant, c'est de comparer les deux cultures. Et oui, il le portait avant. Mais alors, en octobre dernier, le Premier ministre dit bon, plus besoin de le porter à l'extérieur. Il parle pas des pharmacies, on en est loin. Il dit juste à l'extérieur, il y a des statistiques qui ont été faites. 90% des gens continuent de le porter là-bas, à l'extérieur. Nous, il y a un boulot qui est massif. Je trouve que là, ce qui est intéressant, c'est que ça vienne d'associations de malades. Là, tu peux l'entendre. Là, je pense qu'on peut l'entendre. Si ça vient de Macron, si ça vient d'Elisabeth Borne, si ça vient de François Braun.
C'est vrai.
En plus, la parole politique sur le masque a tellement été diluée ces 3 dernières années. Là, ça vient d'associations de malades. Et François Braun, pour le coup, ce matin, avec Apolline, il était bon, je trouve, d'expliquer pourquoi. En fait, les gens qui sont traités pour cancer, qui sont traités pour greffe, fait que la vaccination contre le Covid ne prend pas sur eux. Donc, ils peuvent se vacciner autant qu'ils veulent. comme ils sont immunodéprimés, ils peuvent mourir concrètement. Et donc, de l'expliquer ça, je pense que ça peut faire un petit peu responsabilité tout le monde. Là où quand c'est un ministre qui vient nous dire c'est votre responsabilité à vous Français, ça imprime plus quoi.
Sur le contraire.
Des associations de malades qui réclament le retour du port du masque obligatoire face à la reprise du Covid et aussi face à l'épidémie de grippe saisonnière ou encore de la bronchiolite. Y êtes-vous prêt? On vous pose la question, vous nous appelez au 3216 comme le fait Stéphane. Bonjour Stéphane.
Oui, allô, bonjour.
Bonjour Stéphane, bienvenue dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous nous appelez depuis Cergy, on est en région parisienne.
Ouais, tout à fait.
Est-ce que vous avez déjà remis le masque, Stéphane?
Excusez-moi, je vous ai pas entendu, pardon.
Est-ce que vous avez déjà vous-même remis le masque?
Alors, je le mets dans des... Alors, tout d'abord, moi, j'ai contracté le Covid de façon sévère avec le variant Delta, en 2021, en avril 2021. Donc, ce qui m'a amené à être dans le coma, quand même.
Ah oui.
Et en réanimation, à l'hôpital pendant 16 jours.
Vous aviez une maladie déjà, une comorbidité, comme on dit, ou
En fait, j'avais déjà eu une pneumonie un an avant.
D'accord.
Et donc, ça a fragilisé mon poumon. Et puis, comme par hasard, le Covid, il s'est logé là où j'avais eu ma pneumonie. Oh. Donc voilà. Et donc, j'ai contracté le variant Delta de façon assez sévère. Donc, on m'a plongé dans le coma. Je suis resté dans le coma pendant 8 jours. Je me suis réveillé tout seul au bout de 8 jours. C'est assez
perturbant.
C'est perturbant et en même temps, c'est tant mieux parce qu'il y en a qui restent bien plus longtemps dans cet état-là. Et puis donc en réa pendant 12 jours et 4 jours en unité de surveillance Covid avant d'être à la maison sous oxygène. Et puis j'ai recontracté le Covid là cette année, mais plus de façon plus légère que le variant Omicron il y a à peu près un mois et demi. Voilà, donc j'ai eu
je suis pas médecin, mais vous êtes vacciné, vous avez pu être vacciné ou pas?
Ouais, tout à fait, moi j'ai ma vaccinale complète. Ouais,
d'accord.
Ouais. Ça quand vous sortez de là, vous posez pas la question. Ouais.
Et donc pour le retour, vous comprenez l'appel de ces associations de malades?
Ouais, tout à fait. Moi, je comprends tout à fait ce retour-là. Moi, je comprends complètement. En plus, moi, je pense que il y a le problème, c'est que moi, je trouve que c'est bien d'avoir les libertés de pouvoir choisir si on porte le masque. Je suis quand même, mais bon, moi personnellement, je fais attention. Dans les lieux qui sont vraiment très très fréquentés. Alors moi je prends pas le transport en commun parce que je suis près de mon travail, donc j'en ai pas la nécessité. Mais cependant, si j'avais à le prendre, je mettrais mon masque.
Mais alors Stéphane, vous parlez de liberté, mais vous qui avez été gravement malade du Covid, qui êtes sensible à cette maladie, on l'a compris. Lorsque vous voyez pas, vous prenez pas les transports en commun, vous nous le dites, mais à la pharmacie, par exemple, dans les magasins, personne ne porte le masque. Comment vous réagissez quand vous voyez ça?
Moi, la pharmacie, je le mets. Comment je réagis? Moi, je verrai en gens parce qu'il y a pas d'obligation. Il y a pas d'obligation, donc je ne dirai rien aux gens. Je vais pas.
Oui, mais vous, vous dites pas. Allez, je vais parler pour vous, mais ces gens, par leur insouciance, me mettent en danger.
Ouais, je pense qu'ils sont insouciants. Il y a un manque de. Le problème en France, c'est qu'on a un manque de civisme en général. Hein. Ça, c'est clair. Il y a un manque de civisme. Moi, je pense que les gens, même si on a le choix de le porter ou pas selon les circonstances. Cependant, il y a des lieux, comme les transports en commun, l'avion, la pharmacie, les hôpitaux. Moi, je suis allé récemment aux urgences pour une autre raison, parce que j'ai emmené quelqu'un aux urgences, histoire de cheville. Mmh. Et je voyais les gens dans la salle d'attente. Il y en avait quasiment, on va dire, les trois quarts qui n'avaient pas de masque.
Oui. Là c'est risqué, là c'est les gens qui se mettent en danger, je trouve. Aller à l'hôpital aujourd'hui, aller aux urgences, pas mettre le masque, c'est prendre un risque.
Merci Stéphane d'avoir été avec nous, Stéphane qui nous appelait depuis Cergy-Pontoise, on est en région parisienne. Le professeur Bruno Mégarban nous rejoint dans Estelle Midi. Bonjour professeur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service de réanimation à l'hôpital de la Riboisière à Paris. Vous avez lu cette tribune, j'imagine, des 12 associations de malades qui réclament le retour du port obligatoire du masque dans les transports, dans les pharmacies, dans les magasins. Et ces associations parlent d'une situation désormais intenable. Est-ce que vous partagez cet avis, professeur?
Alors, si vous voulez, oui, je partage l'avis qu'il faut une recommandation forte du port du masque cet hiver. Car effectivement, comme vous le savez, nous faisons face à une triple épidémie actuellement, celle de la Covid, celle du virus respiratoire syncytial, responsable notamment chez les enfants de bronchiolite, mais pas que, chez les adultes aussi, de pneumonie sévère. Et puis la grippe avec une épidémie qui va débuter incessamment sous peu. Et donc effectivement, le masque permet de protéger, de prévenir la contamination contre toutes ces infections que l'on contracte par voie respiratoire. Donc je suis tout à fait d'accord sur une recommandation très forte, une sensibilisation des
campagnes. Là, les associations réclament, professeur, voilà. Les associations réclament le retour de l'obligation.
Voilà. Alors, quant à l'obligation, je dirais, je serais plus réservé. Parce que je pense que, on va dire, c'est une situation qui va durer dans le temps. Donc, c'est pas que cette année, ça va être dans les plusieurs années qui viennent où ce type de recommandation devra être pris. Deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde détient l'information, c'est-à-dire il sait les risques qu'il encourt personnellement, il connaît les modes de transmission, les facteurs de risque, et il sait le rôle du masque dans la prévention de la contamination. Et donc, je pense que pour que les personnes qui pensent être plus à risque, donc les personnes fragiles avec comorbidité, les sujets âgés, ils doivent porter le masque, notamment le masque FFP2, dans les lieux à forte contamination, comme les lieux de transport, pour éviter d'être contaminé. Et pour les autres, c'est un geste de civisme, altruiste, oui, de protection des autres. Le rendre obligatoire, pourquoi pas, mais je dirais, je ne militerai pas en faveur du fait de le rendre obligatoire pour tous.
Mais vous le dites très bien, professeur Megarban, les gens aujourd'hui savent, sont informés, on leur a suffisamment répété. Malgré tout, vous l'avez peut-être constaté vous-même, et on en parlait tout à l'heure avec Mathieu, dans les transports par exemple, personne ne porte le masque.
Oui, je suis d'accord avec vous. Bon, c'est malheureusement...
Qu'est-ce qu'on fait? Au bout d'un moment, on explique aux gens, on leur fait comprendre, on leur dit, ils ont compris, mais ils veulent pas faire...
Parce que la majorité des gens, en fait, grâce à nouveau à la vaccination aujourd'hui, n'encourent plus le risque de mourir ou de faire une forme grave de la maladie.
D'accord, mais c'est ça, ils peuvent se contaminer.
Maintenant, effectivement, ils peuvent se contaminer, donc ils peuvent être responsables d'un absentéisme, ils peuvent contaminer les autres.
Et les plus fragiles.
Ils peuvent manquer le travail. Donc, c'est là le rôle de la responsabilisation. Je dirais, si on le rendait obligatoire dans les lieux à plus fort risque, comme les transports, j'approuverais, bien sûr, et j'expliquerais cette injonction. Maintenant, je ne militerai pas forcément pour le rendre obligatoire, mais par contre, pour faire...
Quelle est votre crainte, professeur, par rapport à une obligation? Je vous êtes réticent, on l'a compris.
Je comprends pas votre réticence.
Je dirais pour considérer la population comme des gens adultes responsables.
Ah non, mais attendez.
Et plutôt que d'une infantilisation. Maintenant, à nouveau, je suis tout à fait d'accord que les autorités sanitaires doivent donner des lignes directrices. Et donc, lorsque celles-ci ne sont pas respectées ou lorsqu'il y a une menace importante, évidemment, rendre les choses obligatoires, comme ça a été fait dans le passé, avec le port du masque, avec le confinement, etc., avec les mesures de restriction. Aujourd'hui, grâce à la vaccination, je dirais, cette mesure paraît, on va dire, pas indispensable.
D'accord.
Et donc, d'ailleurs, pour vous dire, bon, au niveau de la Covid-19, actuellement, on voit déjà se tasser un tout petit peu la vitesse de progression de l'épidémie. On espère qu'on va atteindre très rapidement le pic. Mais ça empêche que le masque reste efficace contre toutes les autres infections par voie respiratoire, et notamment le virus respiratoire syncytial, qui pourrait être dans l'image du public un simple virus de bronchiolite de l'enfant. Je peux vous dire, en réanimation dans le service à la Riboisière, sur 18 patients, j'en ai 5 qui sont porteurs du VRS à l'origine d'infections pulmonaires graves, pour certains intubés ventilés. Donc ça peut tout à fait donner aussi des formes aussi graves que la Covid-19 ou la grippe.
Merci professeur Bruno Megarban d'avoir été avec nous, chef du service de réanimation à l'hôpital La Riboisière à Paris. Perico, très rapidement, un mot.
Non, je suis étonné que vous soyez réticent. Vous encouragez les gens à ne pas porter le masque en disant les gens qui ne veulent pas le porter
vont la responsabilité des...
Eh ben non, on sait bien que non, si on n'avait pas imposé le vaccin, les gens ne se seraient pas vaccinés. Voilà.
On vous a posé la question, tiens, de l'eau à ton moulin, Perico, écoute ça. On vous a posé la question, est-ce que vous êtes prêt à remettre le masque? Réponse Thibault.
Ça va faire plaisir à Perico. Non, à 67%. Voilà.
Bon, donc
CQFD.
Oui, CQFD. Merci à tous ceux qui ont voté sur les réseaux sociaux. Et vous allez pouvoir continuer à voter là sur un autre sujet dans un instant dans Estelle Midi. Parce que ça laisse pas indifférent aussi ce que nous dit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui table sur une baisse de la délinquance en 2022. Est-ce que vous y croyez? Vous votez sur les réseaux
bien
sociaux
sûr.
Et vous nous appelez au 32-16. Et dans un instant, c'est Estelle Midi sur RMC et RMC Story, le canal 23 de la TNT. À tout voilà. de suite.
RMC, midi 15h,
Estelle Midi. RMC, midi 15h, Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, tous les jours, midi, 15h sur RMC et sur RMC Story, c'est le canal 23 de la TNT. Tout de suite, on parle de la promesse du jour. Une promesse faite par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui table sur une baisse de la délinquance en France en 2022. Les chiffres pour décembre, là, doivent tomber dans les jours qui viennent. Mais Thibault, justement, qu'est-ce qui lui fait dire ça? Pourquoi la délinquance baisserait en France?
Eh bien, parce que le ministre de l'Intérieur s'appuie sur le placement sous surveillance entre septembre et novembre de 20 départements concentrant à eux seuls 75% de la délinquance en France. Un effort demandé aux préfets de ces territoires par Gérald Darmanin l'été dernier. Il avait alors réclamé une accentuation des efforts sur le sujet et le renforcement de la police dans les rues. Alors on constate une baisse timide, c'est ce que souligne le ministre, parce qu'il y a une hausse de 8% des violences intrafamiliales par rapport à 2021, Paris en tête. En raison notamment, dit-il, la libération de la parole. On remarque aussi et surtout une baisse des violences faites aux personnes. C'est le cas dans les transports, exception faite de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales. Seuls 3 départements des 20 concernés sont concernés par une augmentation des vols avec violence et 14 sont touchés par une proportion plus élevée de vols de voitures. Enfin, concernant les homicides, le ministre de l'Intérieur met l'accent sur une diminution de 14%. Cela correspond à 50 homicides en moins par rapport à l'an dernier. Des chiffres à relativiser dans l'attente des chiffres nationaux définitifs.
Gérald Darmanin table sur une baisse de la délinquance en France en 2022. Est-ce que vous y croyez? Vous nous appelez au 32-16, Benjamin Muller. Est-ce qu'il a raison d'y croire, le ministre?
Est-ce qu'il a raison? Je voulais que je vous dise, j'en ai, c'est rien du tout. Ce qui est sûr, c'est que c'est de la com, comme ça devrait plus exister. Qu'on parle, en fait, ça veut dire quoi, la délinquance? Déjà, c'est le premier truc. Ça ne veut rien dire. Je veux dire, c'est vraiment l'héritier de Sarkozy pour ça. Il vient nous dire la délinquance baisse. Faut savoir en fait comment sont analysés et comment les préfets et donc comment le gouvernement a les chiffres. J'ai appelé un copain qui est gendarme, qui connaît parfaitement bien ce truc et il était venu chez moi il y a quelques temps, il m'avait raconté, on marche sur la tête. Je vais essayer de pas travestir ce qu'il m'a dit parce qu'on vit quand même dans un truc de fou. Il y a une sorte de grand document, si vous voulez, qui va concentrer toutes les infractions, les délits, etc., qui s'appelle l'État 4001. L'État 4001, il y a 107 index, c'est-à-dire cambriolage, c'est-à-dire vol, c'est-à-dire violence, c'est-à-dire etc., etc. Ces 107 index ont été instaurés en 1972. Ça n'a jamais été actualisé depuis. Typiquement, violence intrafamiliale, ça n'existe pas dans l'index. Donc si vous allez voir les policiers pour porter plainte parce que votre mari vous a tapé dessus, vous dites, mon mari m'a tapé dessus, on cochera pas violence familiale. Donc pour savoir que c'est une violence familiale, on aura violence avec blessure, etc. Et après, ils vont vous dire, qui vous a fait ça? C'est mon conjoint. Donc eux-mêmes, après, s'ils ont envie, pourront faire le lien et dire il s'agit d'une violence intrafamiliale dans les statistiques qu'ils vont donner au préfet. Donc d'un préfet à l'autre, déjà les chiffres sur les violences intrafamiliales marchent pas. Il m'a donné un exemple qui est génial. C'est-à-dire que par un moment, le préfet va avoir un coup de pression pour qu'il y ait moins de cambriolages.
Ouais.
Ça existe. D'ailleurs, on dit au préfet, il faut qu'il y ait moins de cambriolages, les chiffres sont pas bons. Qu'est-ce qu'on va faire? Les préfets vont dire aux policiers, etc., avec qui ils s'entendent bien, dorénavant, quand il y a un cambriolage, on met plus cambriolage, on met effraction sur une porte. Et donc vous, quand
donc
vous
avez... c'est la porte qui a été endommagée.
Voilà, il y a effraction sur la porte. Vous allez porter plainte. Vous vous en foutez
c'est
un peu.
Vandalisme.
Vous en foutez un peu que ce soit vandalisme, effraction sur porte, cambriolage. Ce qui compte, c'est que votre assurance vous rembourse votre télé que vous êtes fait voler. Et donc vous faites pas gaffe à ça. Mais eux, dans leurs statistiques qu'ils font remonter, ça leur permet de dire regardez, beaucoup moins de cambriolage. En revanche, il y a un sujet sur les effractions sur les portes. Quand même.
Ouais.
Et c'est un thermomètre qui est bidon. On tombe tous dans le panneau. Dire la délinquance augmente ne veut strictement rien dire. Et donc Gérald Darmanin fait de la com. Est-ce que je suis surpris? Non.
Mathilde.
Darmanin a trop menti pour qu'on le croit. Enfin, je me souviens de l'épisode du stade. Et en plus, il y a intérêt. Il est ministre de l'Intérieur. Il a aucun intérêt à dire la délinquance augmente. En plus, il a des ambitions pour 2027, donc il a doublement intérêt. Ce trafic des statistiques que vient d'écrire Benjamin, on sait que ça existe, que tous les gouvernements le pratiquent, notamment sur le chômage, sur d'autres chiffres. Donc moi, j'y donne que peu de...
crédit.
Que peu de crédit, et pour être honnête, je pense qu'on a un vrai enjeu à réfléchir de manière plus profonde à comment est-ce qu'on gère la délinquance en France. Moi, je pense que le tout répressif dans lequel on est aujourd'hui ne marche pas. Il y a un enjeu à sanctionner rapidement, très rapidement, la première infraction de la moindre personne qui émet une infraction. Et que ça, en France, on est trop lent. Et qu'on a un problème à ne pas mettre suffisamment d'argent, notamment dans la justice, qui fait que quand tu commets une infraction aujourd'hui, tu n'es pas puni du tout. Donc, tu as une sensation de... d'impunité au début, qui fait que on a un système qui s'entretient avec des gens qui récidivent, etc. Il y a des systèmes dans le Nord où ça marche très bien d'avoir une punition tout de suite quand t'as commis ta première infraction, mais derrière, d'avoir moins un système carcéral et répressif comme on a en France qui fonctionne pas.
Perico.
Effectivement, les statistiques du ministère de l'Intérieur, vous souvenez quand Pasqua avait dit « je vais terroriser les terroristes ». C'est vrai qu'on peut leur faire dire ce qu'on veut. En même temps, je suis moins sévère parce que c'est un ministre autoritaire qui a envie de faire évoluer la situation, ça c'est indéniable. Et dans le ressenti, est-ce que c'est un ressenti, on sent quand même une présence et une pression policière plus accrue qu'on l'a eu à certains moments. Et moi je vois même dans Paris, je vois des policiers qui arrivent, qui interviennent, qui interpellent. Je vois des interpellations très 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 nombreuses partout. Oh. Y compris... Oui, ben je... alors c'est un ressenti, mais là où j'en voyais aller trois par mois, j'en vois deux par semaine. Avec, voilà. Donc je me dis qu'effectivement, il y a en tout cas une action policière. Je ne sais pas si elle se traduit par...
Ce qui est surprenant quand même dans l'argumentaire, tu l'as entendu avec Thibault, de Gérald Darmanin, c'est qu'il nous dit qu'il a mis l'accent sur 20 départements particulièrement criminogènes, ou en tout cas où il y avait beaucoup de délinquance.
Ça concentre 75% de la délinquance.
Voilà, et il a demandé au préfet de mettre un petit coup, de mettre des policiers dehors, mais pourquoi on ne le fait pas tout le temps?
Oui, bah, une question. Ah non, mais peut-être si qu'il veut en déduire.
Non, mais ce qui me surprend, c'est que le ministre lui-même le dit, lorsqu'on met des policiers dans la rue ou des gendarmes dans la rue, lorsqu'on met un petit coup de pression sur les préfets, ça fonctionne.
S'il est cohérent.
C'est un problème d'effectif ou de moyens, j'en sais rien. Bon, enfin, pourquoi on le fait
Rémi, s'il est cohérent, il expliquera au Premier ministre de la République qu'il faut appliquer, c'était la police de proximité quelque part, qu'il faut rétablir cette présence policière parmi les citoyens et que rien n'est plus dissuasif pour un délinquant que d'avoir un képi qui est, je sais plus un képi, c'est une casquette ou un bonnet. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc s'il va dans ce sens-là et que si sa statistique lui permet de dire il faut redéployer la police et la renforcer dans son action
renforcer parce que je crois que les policiers sont les premiers aujourd'hui à demander des moyens. Je sais pas si les gens qui nous écoutent, si quiconque est allé porter plainte récemment, en fait vous tombez sur des policiers, enfin moi ça m'est arrivé très récemment pour un cambriolage, comme ça vous savez tout, le policier qui était adorable avec moi, qui était vraiment plein d'empathie, etc., il m'a dit, mon pauvre monsieur, ça n'aboutira à rien. En fait, on sait qui m'a cambriolé, je lui ai donné le nom, etc., mais il m'a dit, mais ça demande des moyens, ça demande des trucs, on n'a pas du tout.
Tu vas vérifier, Thibault, si tu veux bien, mais si je ne me trompe pas, c'est 8%.
Oui, mais alors que, mais lui, il me dit, c'est pas de la mauvaise volonté. Dans la salle d'attente, il y avait une dame qui était là parce qu'elle s'était fait frapper par son mari, il y avait un mec qui s'était fait casser la gueule, etc. Il croule sous les dossiers, tous plus lourds les uns que les autres, tu veux bien croire, mais ils sont trois à se batailler avec
tout ça. Le problème, c'est qu'il le fera jamais, il dira jamais police de proximité parce que c'est quelque chose qui a été mis en place par la gauche qu'ils ont ensuite supprimé.
Qui était le modèle de Sarkozy quand il a cassé
au pouvoir. Et par ailleurs, je pense que c'est pas un enjeu uniquement que de mettre des policiers dans la rue. C'est aussi un enjeu d'éducation nationale et plus globalement de faire.
On
en est quand même aux profs qui sont en deux semaines recrutés.
Le préventif, c'est formidable, mais il faut soigner la plaie.
Je suis d'accord, mais il faut faire les deux en fait.
Ah, bien sûr, il faut une réponse.
Donc la casse des services publics, que ce soit la police, que ce soit la justice, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit l'hôpital, c'est un drame. Et ça, c'est un drame parce qu'on ne met pas l'argent là où il faut.
Et Mathilde, tu disais tout à l'heure, on est d'accord, il faut une réponse immédiate et aussi traiter le problème sur le fond et sur le long terme. Antoine est avec nous. Bonjour Antoine.
Bonjour à toutes et à tous.
Antoine. Bonjour. Qui nous appelle d'Ajaccio.
C'est ça, oui.
Bienvenue dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Antoine, je vous pose la question, comme à vous tous, d'ailleurs, vous nous appelez au 3216. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, table sur une baisse de la délinquance en 2022. Antoine, est-ce que vous y croyez?
Alors moi, je suis plutôt d'accord avec Perico, mais je rejoins sur un point l'ensemble des intervenants, c'est à savoir qu'est-ce qu'on met dans délinquance. Moi, je pense que Darmanin, dans le thème délinquance, il parle de ce qui se passe principalement dans la rue, les agressions, les bandes organisées, le trafic de drogue. La violence intrafamiliale, je ne pense pas que ça rentre dans le cadre de la délinquance. C'est un crime, c'est de la violence, mais ça rentre pas dans le cadre de la délinquance.
Il en parle, le ministre. Il dit justement que la baisse, elle sera timide parce qu'il y a une augmentation des violences intrafamiliales.
Voilà. Et moi, de mon côté, je voudrais ajouter un truc pour aller dans le sens de Perico, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, je suis en Corse et j'ai 36 ans. Je peux vous assurer que depuis que je suis né, je n'ai jamais vu autant d'arrestations pour trafic de drogue depuis un an voire deux ans. C'est incroyable, ça n'arrête pas de tous les côtés. Donc il y a clairement Clairement, et c'est visible, hein, c'est pas une manière de, c'est pas un sentiment, il suffit de regarder le nombre d'articles dans les journaux qui disent arrestation, ça n'arrête pas, donc il y a clairement, je pense que dans certains domaines, c'est possible que il y ait un peu moins d'insécurité, ou en tout cas que les chiffres baissent.
Merci Antoine d'avoir été avec nous et pour ce témoignage. Antoine qui nous appelait d'Ajaccio, Stéphane nous rejoint au 32-16. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour à l'équipe, bonjour à tous.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi, on est en Gironde.
Eh bien, nous sommes en Gironde et puis je voulais vous apporter un éclairage assez intéressant. J'écoute beaucoup les médias, je regarde un petit peu ce qui se passe par rapport à ce problème de délinquance. Je voulais juste vous donner la notion de capacité de jugement.
Je précise, Stéphane, vous êtes fonctionnaire de police ?
Oui, tout à fait.
D'accord, ok. On vous écoute.
Donc, j'ai eu la chance un jour de discuter avec un magistrat. Il m'a expliqué les choses simplement. Il m'a dit, voilà, en début d'année, on se réunit, on définit une capacité de jugement, c'est-à-dire en fonction de l'effectif des magistrats, des dossiers, du nombre de dossiers qu'on peut traiter, eh bien, on va déterminer qu'on peut traiter tant de dossiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces magistrats, tout au long de l'année, vont être obligés d'instaurer des priorités. Et ça veut dire que cette délinquance, finalement, qui pourrit le quotidien des gens tous les jours, eh bien, ces gens-là, quand la police se plaint qu'ils sont remis, finalement, dehors, mais c'est pas étonnant, c'est parce qu'en fait c'est pas forcément un manque de moyens du côté de la police, c'est plutôt un manque de moyens du côté de la justice. Je ne dis pas que la justice c'est le problème, je dis juste qu'il y a un manque de moyens parce qu'encore une fois les magistrats disent mais nous vous êtes bien gentils mais on peut juger tant de dossiers et donc on va prendre les cas les plus graves, ceux-là on sait qu'on va pouvoir les juger et les autres, ceux qui pourrissent finalement le plus la vie des gens au quotidien, ben ceux-là les gens ils vont être mis dehors. Et ça, on n'en a pas beaucoup parlé dans les médias et ça m'embête un petit peu. C'est pour ça que je voulais vous apporter cet éclairage. Je
suis complètement d'accord avec vous.
C'est très bien que vous ayez la parole pour nous le dire, Mathilde.
Mais non, mais c'est exactement ce que je disais. C'est qu'il y a un moment où si on ne met pas l'argent dans la justice, ça ne peut pas fonctionner. On voit du coup des délinquants qui vont ressortir et les flics ne vont pas avoir assez de moyens. Donc il y a un enjeu sur les services publics en général. Si on veut que la police puisse faire son travail et qu'on ait moins de délinquance, il faut que la justice fonctionne, il faut que l'éducation nationale fonctionne. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et on a un gouvernement qui nous dit encore, faut baisser le nombre de fonctionnaires. Non, ça marchera pas.
Stéphane, lorsque vous entendez votre ministre, le ministre de l'Intérieur, tabler sur une baisse de la délinquance, c'est quoi? C'est de l'esbrouf? C'est de la com?
Je pense pas que ce soit de l'esbrouf. Je pense que le ministre de l'Intérieur n'a pas forcément conscience de ces choses-là ou alors.
C'est problématique, c'est le ministre de l'Intérieur.
Non, on va dire que c'est un discours politiquement correct. Ouais. Mais on sait très bien aujourd'hui, encore une fois, moi je vois passer des affaires, si vous voulez, de choses. Alors encore une fois, quand je dis qu'ils pourrissent la vie, ce sont des agressions, ce sont des cambriolages répétés, c'est des voitures qui sont cassées, c'est des agressions dans la rue, etc. Mais ces gens-là, aujourd'hui, il faut que tout le monde réalise que les magistrats ne sont pas en capacité de juger ça. Et de toute façon, il se pose un double problème, c'est qu'on se dit que si ces magistrats sont en capacité de juger ça demain, il n'y a pas assez de place en prison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut emprisonner ces gens? Est-ce qu'il faut les relâcher comme on fait aujourd'hui, en sachant que si on les relâche, on est confronté... Vous savez, beaucoup de fonctionnaires de police, si vous les interrogez, ils vous diront... on retrouve toujours les mêmes. Pourquoi
C'est ce qu'on entend. Vous n'êtes pas le premier à nous le dire, effectivement. Systématiquement, quand on traite un problème lié à la délinquance et qu'on a des policiers à l'antenne, c'est vrai que systématiquement, et on les force pas, c'est des appels spontanés au 32-16, systématiquement, tous les policiers nous disent la même chose. C'est pas une image d'Épinal. C'est on arrête quelqu'un et puis deux ou trois jours ou une semaine plus tard, on le retrouve au même endroit, quoi.
Et du coup, sentiment d'impunité. Et du coup, aucune raison de se remettre en question. Mais alors, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'on dit que la justice manque, etc., de magistrats, mais vous aussi, j'ai l'impression que la police aussi manque de moyens, parce que c'est une chose.
Tout le monde manque de moyens.
Il y a des budgets là qui ont été annoncés ces derniers mois par Emmanuel Macron. Maintenant, il faut que ça se mette en place.
Parce que c'est une chose, les annonces de budget, puis après, une fois encore, quand vous parlez avec le policier du commissariat de votre quartier, qui vous dit, nous, il y a 50 affaires par jour, on est 3, comment on fait, quoi?
Merci à Stéphane d'avoir été avec nous au 32-16. Stéphane qui nous appelait depuis le département de la Gironde. On vous posait la question, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, promet en tout cas table sur une baisse de la délinquance en 2022. Est-ce que vous y croyez? Il y a encore de la com à faire, je pense, pour le ministre.
Ouais, score sans appel, mais je vais vous le donner juste avant. Un message qui illustre justement le résultat de ce sondage. Entre les chiffres et le ressenti, il y a une sacrée différence. Il faudrait que le ministre aille dans la rue pour voir ce qu'il se passe. Le sentiment d'insécurité dans nos centres-villes est grandissant. C'est ce que dit François et vous êtes 93% à ne pas croire ce que dit le ministre de l'Intérieur.
Voilà. Merci Thibault. Allez, dans un instant, on n'arrête pas le progrès avec Anthony Morel. La population vieillit, c'est un énorme enjeu de société.
Progrès, ça.
Et la technologie, ça c'est un progrès. Et là, pour nous aider, c'est dans un instant dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story. Tu te sens mieux déjà, Perico?
Mieux là.
Bah voilà.
RMC, Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story. Et Anthony Morel nous a rejoint.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Salut Anthony.
Hello.
Il n'y a pas d'âge pour être geek. Vous nous parlez, tu nous parles aujourd'hui de ce qu'on appelle la Silver Tech. C'est la technologie des cheveux gris au service des personnes âgées, notamment pour les aider à rester autonomes plus longtemps. Et on le sait, c'est un énorme enjeu de santé publique.
Ouais, absolument. Silver Tech, je garde l'anglicisme, pardon, parce que le mot officiel en français, c'est gérontotech, ce que je trouve beaucoup moins
c'est magnifique.
C'est moins poétique. Silver Tech, ça
travaille dans la gérontotech.
On dirait un être préhistorique, gérontotech.
Bien sûr, mais il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de startups qui se lancent sur ce marché parce qu'effectivement, énorme enjeu de faire en sorte que les personnes soient autonomes le plus longtemps possible, aillent le moins vite possible en EHPAD. Je vous donne quelques exemples concrets. Il y a par exemple des détecteurs de chute connectés. Ça, c'est très malin. C'est un truc qu'on va pouvoir installer chez soi, à la maison, sur les murs, un peu partout. C'est des capteurs de mouvement qui vont comprendre ce qui est en train de se passer, et notamment s'il y a une chute, eh bien elle va pouvoir prévenir les secours automatiquement. Ça, c'est quand même très très malin. Vous avez aussi des objets connectés qui font un petit peu la même chose. Je pense par exemple à une canne qui s'appelle la Smart Cane, qui a été mise au point par des Français. Donc c'est une canne qui ressemble à une canne, tout ce qu'il y a de plus normal, mais vous avez de l'électronique embarquée à l'intérieur et notamment des capteurs qui permettent de comprendre qu'une personne est tombée ou que sa routine est en train de changer. Par exemple, elle est habituée à faire 2 ou 3 km dans la journée et puis là, tout à coup, elle bouge beaucoup moins. Pourquoi? Et ben là encore, on va pouvoir prévenir des proches ou prévenir...
Question bête, il y a un GPS ou pas?
Non. Alors oui, t'as un système de géolocalisation, absolument. Donc si tu tombes... Parce que si tu te perds ou si tu tombes et que t'appelles les secours mais on sait pas où ça peut être un petit peu embêtant. Dernier exemple, c'est le pilulier connecté. Ça, je trouve que c'est une super bonne idée. Ouais. Donc pilulier, on connaît, boîtier avec tous les médicaments, mais vous avez des petits capteurs volumétriques à l'intérieur de chaque case pour comprendre qu'on a pris 2 fois le même médicament ou qu'on a oublié de le prendre. Et là encore, la personne va pouvoir être directement prévenue sur son téléphone, ou ça peut être le téléphone des enfants ou des petits-enfants, si la personne a accepté, évidemment.
Et j'imagine que c'est simple d'utilisation, c'est adapté aux
personnes. Hyper simple. Pour le coup, ça se fait, mais de manière automatique, quoi, si tu veux. Ouais.
Il existe aussi des smartphones spécifiquement conçus pour les personnes âgées.
C'est ça, je vous en ai apporté un. Alors écoute, c'est pas mal. Ça ressemble à un smartphone, en fait, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais c'est pas toujours facile, la prise en main d'un téléphone quand on a 85-90 ans. Alors celui-ci, vous voyez, il y a des grosses icônes déjà. Ouais, on peut pas se planter. Ouais. Donc, les appels, les contacts, c'est assez facile. À l'arrière, un petit bouton SOS, très malin. Donc s'il y a un problème, on appuie et on va être en contact direct soit avec la famille, soit avec les secours. Et puis il y a aussi des fonctionnalités très simples où en envoyant un SMS à ses proches, on peut leur donner un accès temporaire au téléphone pour qu'ils puissent par exemple installer une application parce qu'on sait pas comment faire, ou augmenter la sonnerie parce qu'on sait pas aller dans les paramètres, c'est un peu compliqué.
Ah, ça, c'est
donc
bien.
C'est les enfants qui ont
le faire
à distance.
Moi j'ai mon père qui a un certain âge aujourd'hui, quand il me téléphone parfois en me disant je n'arrive pas à régler ça et tout,
tu dois le faire à distance. Alors attends, tu vas les paramètres là, tu vois le petit logo. C'est hyper compliqué. Ouais, bien sûr. Donc là on peut le faire de manière automatique. Donc c'est bien. Après, c'est pas des téléphones de compétition, vous n'allez pas faire des photos incroyables, mais si c'est juste pour avoir les fonctions de base, appeler la famille et aller sur internet éventuellement, c'est pas mal. Je vous donne les marques, le leader c'est Doro, D-O-R-O, et il y a une marque espagnole qui s'appelle SPC aussi, qui fonctionne assez bien.
Et puis toujours dans cette logique d'autonomie, les robots compagnons vont de plus en plus s'inviter dans la vie des seniors. Ça, tu vas adorer.
Alors absolument, c'est déjà le cas un peu au Japon, où il y a un énorme enjeu de vieillissement de la population. Ça arrive aussi en France, des robots comme le Cutie par exemple. Donc c'est des petits androïdes qui sont montés sur roues avec un écran en guise de tête. Alors tu dis quelle horreur. En fait, moi je suis plutôt fan de ça en réalité, parce que c'est une fenêtre sur le monde. Si tu veux, t'as cet écran qui va permettre à une personne qui est parfois isolée, qui a pas forcément de compagnie, qui a pas forcément de famille, et ben de se retrouver soit projeté dans une visite virtuelle d'un musée, il y a des musées qui font ça, ou de discuter avec une classe et de raconter son histoire. Voilà. Donc il y a un côté hyper social en réalité avec ces robots.
Et énorme enjeu, tu l'as dit, pour le santé publique, et puis énorme enjeu financier aussi.
Ah mais clairement,
laisser les personnes âgées, alors pour elles c'est très bien, et pour leur famille le plus longtemps possible à domicile, et pour la société, ça représente des milliards et des milliards d'euros d'économiser pour la sécurité sociale, pour l'assurance maladie.
Absolument.
Et c'est un vrai enjeu. Merci beaucoup Anthony d'avoir été avec nous. Dans un instant, tiens, on va parler de laïcité à l'école. Plus d'un prof sur deux évite désormais de parler religion à l'école pour éviter les problèmes, et on vous pose cette question. Est-ce que la laïcité est définitivement en danger dans notre pays? Vous nous appelez au 3216. C'est dans un instant dans Estelle Midi sur RMC et sur RMC Story. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.